Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Genèse, chapitre 18. On peut allumer les lumières ici, celles du stage, s'il vous plaît. Au cas où que je lise dans ma Bible, parce que mes versets sont déjà écrits. Merci. Bienvenue à tout le monde. Merci. OK. Aujourd'hui, assurez-vous que vous n'ayez pas quitté sans avoir récupéré une lettre que je vous ai écrite. Donc, une lettre que vous a été écrite à chacun d'entre vous. Fait que, assurez-vous que vous ne partez pas aussi sans le CD, un CD du message de Pasteur Pat de mercredi qui était excellent et je considère que toute l'Église devrait avoir ce message-là. Réécoutez en boucle dans votre véhicule, c'est en CD. Donc, OK, vous êtes dans Genèse 18. Qui a amené leur Bible aujourd'hui? Je vois des cellulaires, c'est correct ça? Excellent. Bon, c'est bien. Apportez votre Bible si vous pouvez, soit votre téléphone, pour qu'on puisse lire ensemble, parce qu'aujourd'hui, ça va être une lecture soutenue d'un passage qui a 33 versets. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que ta parole, Seigneur, ait l'effet d'un marteau, pour briser le roc, Seigneur, pour briser l'indifférence qu'un ou une pourrait avoir envers la prière. Je prie, Seigneur Dieu, qu'elle soit comme un feu aussi, Seigneur Dieu, qui pas un feu dévorant, comme on voit la montagne de Sinaï, Seigneur Dieu, mais le feu qui s'est déposé sur la tête de chacun des croyants dans le Nouveau Testament, à Actes, à la Pentecôte. Que tu viennes, Seigneur Dieu, nous rendre passionnés par la prière. Je prie, Seigneur, qu'à la fin de mon message, déjà avant la fin de mon message, il y ait dans le cœur de chaque croyant un désir de formuler des demandes avec persévérance à notre Dieu. Amen. Donc, ma prière laisse présager que je vais parler sur la prière. Et puis, j'en ai parlé aussi sur Facebook hier, que j'étais pour parler de ça. Fait que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Des fois, on me demande pour prier pour un besoin particulier, et je sens que quand les gens me le demandent, c'est pas parce que je suis pasteur ou, entre guillemets, des fois dans la culture québécoise, le prêtre de l'Église. Tu sais. Je suis pas le prêtre, je suis le frère. Mais quand un frère ou une sœur me demande de prier en qualité de frère, et non pas en qualité de parce que j'aurais un privilège quelconque d'être plus proche de Dieu, je ne suis pas, eh bien, quand on me demande pour prier, je dis oui avec politesse, bien sûr, hein? Mais je me demande si mon oui, quand je dis oui, c'est que j'ai l'impression que quand je dis oui à la personne, ma prière va faire une différence dans la situation. Donc, des fois, c'est un oui de politesse et j'ai besoin de poser la question dans mon cœur, est-ce que je pense vraiment que la prière que je vais faire va faire incliner Dieu favorablement envers l'autre? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous ne manquez peut-être pas de foi comme moi, puis vous autres, vous pensez que quand vous priez, là, Dieu va faire quelque chose, là, à coup sûr, parce qu'il nous donne des promesses dans la Bible. Fait que tant mieux si vous n'êtes pas comme moi, mais moi, je vous dis, des fois, j'ai besoin de me challenger moi-même, puis d'écrire, mais je crois-tu que ma prière va vraiment faire la différence? Est-ce que vous vous posez la question, parfois, c'est quoi l'obstacle qui fait qu'on ne prie pas comme on pourrait? Puis ma prière aussi, en m'emmenant ce matin, c'était « Seigneur, délivre-nous des formes extérieures de la religion s'il n'y a rien à l'intérieur qui soutient cette religion-là ou cette forme extérieure-là. » Le gros problème, au temps de Jésus, les gens allaient au temple, faisaient plein de choses pour le Seigneur, mais Jésus dit « Vous venez même pas à lui pour avoir la vie. » Et en tant que chrétien, la prière, on l'a peut-être résumée à bénir le repas, prié avant le dodo. J'ai remercié le Seigneur pour la bonne journée. Et avoir comme une genre de coquille extérieure de « c'est sûr, un chrétien, ça prie. » Tu sais, un chrétien, ça prie, donc je prie. Mais est-ce que je m'approche de Dieu avec la foi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, de ceux qui le cherchent? Est-ce que je crois que je suis vraiment en train de parler à Dieu et que Dieu entend ma prière puis il va faire quelque chose avec ça? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de prier comme on voudrait peut-être le faire? Pensez-vous que, de toute façon, ce qui doit arriver va arriver? Ou encore, Dieu connaît tout ce qui est en train d'arriver, Dieu connaît tout ce qui va arriver ou qui peut arriver. Qu'est-ce que ma petite prière pourrait bien faire changer quelque chose là-dedans? Peut-être qu'on pense aussi que Dieu passe par notre vie, mais qu'il est bien occupé à bien d'autres problèmes, puis on ne le dérangera pas. Une faible image propre de qui on est. Tu sais, vous dites, hey, qui suis-je, moi, tu sais, pucereau? Une puce, dans le fond, devant le Créateur. Donc, c'est peut-être notre image propre qui fait, c'est quoi, je ne dérangerai pas Dieu. T'sais. Peut-être que vous êtes de ces genres de personnes-là, et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ose demander ». C'est la deuxième partie d'un message qui est une relation basée sur la confiance. Dans le premier message, on avait parlé d'Abraham, comment Dieu voulait qu'Abraham apprenne à faire, Abraham comment, apprenne à faire confiance à Dieu et comment Dieu découvrait dans Abraham s'il était l'homme en qui lui aussi pouvait faire confiance. Et donc aujourd'hui, on va poursuivre un peu avec le personnage d'Abraham. Mais peut-être que vous, vous êtes content dans le sens satisfait. T'sais? Un peu comme les bouddhistes qui disent, le bouddhisme, grosso modo, change rien, t'sais? Accepte la situation. Plus tu vas accepter les choses, plus tu vas être en paix. On va parler dans le bouddhisme aussi de lâcher prise. Cette idée de se contenter alors que tu pourrais peut-être demander plus. Dieu veut qu'on lui demande plus. Donc, il y a peut-être une mauvaise idée parmi les chrétiens. Regarde, pas le choix, il faut qu'on passe par là. Fait qu'on va passer comme des bons disciples. Fait que tu as une personne qui passe au travers plein de choses dans sa vie, elle ne demande jamais rien au Seigneur pour venir l'aider dans cette situation-là, puis à la fin, elle se dit, ben moi, je vais être transformé à l'image de Jésus. T'sais. Fait qu'ils vont vivre dans un genre de contentement. Alors qu'en fait, la prière, elle nous est donnée pour qu'on puisse demander plus. Donc ça, c'est important. Peut-être que Dieu est en train d'attendre que vous lui demandez. Peut-être que Dieu, là, il voit votre situation, il voit les épreuves dans lesquelles vous êtes, puis il vous regarde, puis il dit, est-ce qu'elle va me demander? J'y ai délégué la gestion de sa vie. Si tu es un père, Dieu t'a délégué ta famille. Si tu es un patron, Dieu t'a délégué une compagnie. Si tu es un pasteur ou une autorité quelconque, Dieu t'a délégué des choses. Puis là, il te regarde, puis il dit, il va-tu me demander de l'aide? Dieu nous regarde, puis est-ce qu'on va lui demander son assistance? Est-ce qu'on va l'inviter dans notre petit royaume, finalement? Et donc, peut-être que Dieu vous regarde des cieux, puis il dit, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire. En fait, s'il veut vraiment avoir une relation avec nous, comme je crois qu'on le lit tout au long des Écritures, Dieu attend de voir chez son enfant s'il y a la foi, parce que c'est ça qui lui plaît. Et là, il agit. Dans Jean 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il y a une joie qui vient de ce que Dieu répond à nos prières précises, à nos prières qu'on lui a demandées. Et je pense que si on n'a pas ça dans notre vie, je pense qu'on ne peut pas être joyeux comme Dieu voudrait qu'on le soit. Et donc, je souhaite, et mon désir, c'est que vous puissiez connaître la joie avec moi d'être exaucé par notre Seigneur. Pasteur Pat, dans son message de mercredi, que je voudrais que tout le monde écoute, il disait, la réunion de prière de l'Église, peu importe si c'est un mercredi ou un dimanche matin avant le culte, peu importe, devrait être la réunion la plus courue, encore plus que la réunion du dimanche matin. Et ça m'a fait réfléchir, et donc, en introduction à ce message-là, je réalisais, et quand je préparais mes notes pour ce message-là, je réalisais quelle puissance qu'on a de s'approcher de Dieu dans la prière. Dans Éphésiens, il nous est dit, c'est par lui que nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et lorsqu'on prend un frère et on le place devant Dieu dans la prière, c'est ce qu'on fait lorsqu'on intercède les uns pour les autres. On se place entre eux et Dieu d'une certaine manière. On va dire, « Hey Dieu, regarde-lui. » Et donc, quelle belle façon d'aimer une personne que de le servir en priant pour elle. Et quelle belle chose. Tu sais, Jésus, là, c'est quoi qu'il a fait quand il a renversé les tables? Deux fois dans son ministère, il a renversé les tables. Au début de son ministère, puis à la fin de son ministère, il a rentré dans le temple, il a renversé les tables, il a fait des fouets, il a chassé les animaux. C'est quoi qu'il a dit? Cette maison sera appelée une maison de prière pour les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous avez fait un royaume d'activité. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais il y a une chose que vous n'avez pas faite. C'est une maison de prière pour les nations. Et à combien plus forte raison l'Église locale, l'Église du Seigneur, si le temple à Jérusalem était une maison de prière pour les nations, à combien plus forte raison l'Église est un endroit où on peut prier les uns pour les autres. Amen. OK, donc, dernièrement, on regarde les nouvelles, puis moi, ce qui me choque, c'est de voir comment en Libye, on prend des personnes par centaines, puis on les met dans des autobus, puis on les vend comme des esclaves. Tu te dis, crème, c'était dans le temps de Jésus qu'on faisait ça. Ce n'est pas dans notre monde évolué en 2017. Des gens qui ont les mêmes mains que nous, les mêmes pieds que nous, qui ont été créés à la même image que nous, on les prend et on en fait des esclaves. Des esclaves en 2017! Ça me choque. Puis avec mon petit monde de Saint-Valère, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là en Libye? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier. Mais si je ne prie pas, je suis resté avec mon impuissance de dire, regarde, oui, c'est notre royaume, Seigneur, la terre, tu l'as donné à l'homme, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses certainement qui peuvent être faites, il y a des gens en autorité qui peuvent faire quelque chose, mais moi, je suis très petit dans ça. Par contre, je connais le Créateur du monde. Je connais celui qui les anges les plus puissants de l'univers, si on peut dire, créés, sont à son service et au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ça, c'est nous autres. Ils sont à notre service, au service de nos prières pour qu'il se passe des choses. Le Dieu que je connais dans la Bible, c'est Dieu qui dit « Je ne reviendrai pas régner sur la terre à moins que mon peuple d'Israël y intercède pour que je sois leur roi. » Et c'est là que va venir la fin telle qu'on la connaît, bien, en tout cas le commencement de la fin, le millénium et tout le reste. Tu sais. Donc, si je suis désolé de voir ce qui se passe dans le monde, ça en reste là. Je vais devenir une personne aigrie. Je vais devenir une personne amère envers le genre humain. Crime déçu d'être humain, des fois. Mais si je crois à la prière, mon amertume ou ma désolation, qui est une chose qui est importante, c'est la désolation qui nous amène à Dieu. C'est le fait, justement, que les choses ne sont pas comme elles devraient être qui nous amène à Dieu. Bien, si je l'utilise, cette force négative-là, pour m'amener près de Dieu, eh bien, je ne serai pas une personne qui va être amère. Je vais être interpellé à prier Dieu. Et je prie qu'après mon message, vous soyez interpellé à formuler toutes sortes de demandes à Dieu. La prière, ce n'est pas de l'adoration. La prière, ce n'est pas la confession de nos péchés. La prière, ce n'est pas des chants. La prière, ce n'est pas juste être avec Jésus. Tu sais, il y a des mouvements aujourd'hui, là, des mouvements très spirituels, là, qui ne demandent rien, il sait tout, tu fais juste être dans sa présence. Non, la prière, c'est de demander des choses à Dieu et espérer leur exaucement, point. C'est ce qu'on retrouve dans la parole. Les autres choses, ce sont des choses qui accompagnent la prière, mais ce ne sont pas nécessairement la prière. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 18, puis on va lire à partir du verset 1, et on va lire les versets 1 et 2. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et il vit trois hommes debout, non loin de lui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Abraham qui a une apparition de Dieu. Dieu lui apparut. Premier verset, premier mot, l'Éternel, ou YHVH, l'Éternel dans notre Bible. Il apparaît, il est assis dans sa tente. On voit qu'Abraham, c'est un nomade, C'est pas quelqu'un qui est rendu à l'endroit où il doit être. Il est toujours en voyage. Il est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. La chaleur du jour, c'était à peu près sur l'heure du dîner. C'est au Moyen-Orient le moment où on va partager un repas, où on va manger un repas. Il est assis à sa tente. Et là, il voit trois hommes. Trois hommes dont Dieu en fait partie. Donc, les trois ne sont pas Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y en a un des trois que c'est Dieu. On va en parler un petit peu plus loin. Verset 2. Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente et à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. » Au verset 4. « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Déjà, on voit tout de suite quand il les voit, qu'est-ce qu'il fait? Le texte dit, « Il court vers eux. » Donc, il s'en va, il les voit, il court vers eux. Et on sent une urgence tout au long de la suite dans sa demande. Il va se prosterner. Dans le texte, le mot, c'est « chacha ». Et c'est la première fois dans la Bible que c'est utilisé. Mais quand il arrive, il les voit, la première affaire qu'il fait, il se prosterne. Et déjà, on voit un acte d'adoration ici parce que Dieu fait partie des trois. Et on voit qu'il y a un accueil assez spécial de la part d'Abraham. On va voir de la façon qu'il va faire préparer le repas, tout ça, que l'accueil qu'Abraham donne à ces trois personnages-là est très différent de l'accueil qu'il va avoir à la fin du chapitre, c'est-à-dire à Sodome, au début du chapitre 19, quand Sodome et Gomorre vont voir qu'il y a deux des trois personnages qui viennent, ils veulent les violer, littéralement. Et donc, l'accueil est comme pas pareil. Par contre, on voit chez son neveu Lot, hey, restez, il est prêt à rester, à manger, à coucher chez eux. Tu vois qu'il y a du Abraham dans Lot. Cet accueil de ces messagers du Seigneur. Et donc, la salutation, c'est « Seigneur, si j'ai trouvé grâce », et le mot qu'il va utiliser, c'est « Adonai ». Il va utiliser le mot pluriel, et ce n'est pas qu'il parle aux trois, maître, comme si les trois étaient maîtres, hein, Adonai, c'est maître, c'est un des noms de Dieu, mais c'est aussi utilisé pour le mot maître ou Seigneur. Okay? Et donc, il va dire « Adonai, pas Adoni. Okay? Et donc, le mot qu'il va dire, c'est ceci. Il va utiliser un pronom singulier et il va le mettre au pluriel. Mon Seigneur, au pluriel. Pourquoi? Parce qu'Abraham est en présence du Dieu trinitaire. Il est en présence d'un Dieu pluriel, mais singulier aussi, dans le sens que c'est un Dieu, mais trois personnes. Et Abraham va demander d'être béni. Il va dire, hey, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, passe pas tout droit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, écoute ma requête. » Et la requête va être de leur faire à manger, qu'ils puissent se reposer sous un arbre, puis qu'ils ne partent pas sans avoir fait ça. Et il dit, « Car c'est pour cela que vous êtes venus. » Abraham n'a pas l'impression que Dieu et les deux messagers, lui, il ne sait pas que c'est des anges, parce que les anges, généralement, n'ont pas d'ailes, sont dans un homme qui sont à peu près dans la trentaine, puis qui ne paraissent pas du tout comme des anges. Ça, c'est le mot ange. Quand on voit archange, là, oups, c'est un chef des anges, et il y a les chérubins aussi. Okay? Donc, il ne sait pas que c'est des anges, mais il sait qu'il y en a un, que c'est l'Éternel Dieu, Adonai. Et donc, Abraham, il va... Il est convaincu qu'ils ne sont pas juste en train de passer. Il dit, vous êtes venus ici. Là. Passez pas tout droit. Venez pour moi aussi. C'est un petit peu ça qu'il dit. C'est pour ça que vous êtes venus. Abraham, il est convaincu, un, qu'il est visité et que Dieu et les anges ne font pas que passer. Il demande à ce qu'ils acceptent une offre de repos en leur apportant un peu d'eau, en leur lavant les pieds, comme c'était la coutume d'hospitalité, et en leur laissant se reposer sous un arbre et leur offrir un morceau de pain pour restaurer leur âme. C'est un peu ce que le texte dit. Et donc, les anges et Adonai vont consentir à rester. Verset 6 jusqu'au verset 8. Verset 6 à 8. Et Abraham alla promptement, encore une fois, la rapidité, vous voyez, dans sa tente, vers Sarah et dit, « Vite,
3 mesures de fleurs de farine pétries, fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, et prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit de la crème et du lait et le veau qu'on avait apprêté, les mit devant eux et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Dans ce texte-là, on voit Abraham accourir aussitôt. Il y a un sentiment d'urgence. Dieu est là sous forme d'un homme. Il veut le servir, puis il va faire préparer 3 fleurs de farine, et c'est beaucoup trop pour 3 hommes, selon ce que je lisais avec Arnold Fuchsenbaum. Donc, beaucoup plus qu'un morceau sec de pain avec un petit peu d'eau pour reposer leur âme. C'est vraiment comme un festin. Il leur prépare quelque chose de vraiment bon. Et il va aller au-delà de la simple hospitalité. C'est lui-même qui choisit l'animal tendre et bon, et puis il va même le servir avec du beurre ou de la crème, puis du lait. Jamais tu faisais ça en Israël, servir du veau et du lait, en tout cas plus tard, parce que dans le fond, les rabbins disaient que l'idolâtrie, c'était, on faisait bouillir le veau dans le lait de sa mère, puis il y avait comme une cruauté animale, parce qu'on venait de le prendre du sein maternel, tu sais, puis il y avait comme une cruauté. Puis c'était offert à des dieux. Fait que les Israélites voulaient tellement se tenir loin de l'idolâtrie qu'il y a une loi au temps de notre Seigneur Jésus que tu ne pouvais pas prendre du veau puis du lait dans la même assiette. Fait qu'encore aujourd'hui, dans la culture juive, c'est ton veau dans une assiette, le lait, la crème dans d'autres assiettes. Et les deux aliments ne peuvent pas être mélangés. Mais dans ce temps-là, la loi mosaïque n'était pas arrivée, puis les rabbins n'avaient pas fait toutes sortes de lois. Fait que lui, il leur sert, il n'y a pas de problème à ce qu'ils mangent tout ça ensemble. Bon, c'est pas le point, mais je trouvais ça intéressant quand même. Et là, c'est écrit qu'il se tenait à côté d'eux pendant qu'ils mangeaient. Et c'était aussi une règle d'hospitalité. En signe de respect, l'autre se tenait près de ses invités, les regardait manger. Est-ce que tout est bon? Puis, il y a un verset dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, au chapitre 13, qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » Hébreu, chapitre 13, verset 2. Et ça fait référence à Abraham ici. Abraham ne savait pas que les deux autres, c'était des anges, mais il leur a offert l'hospitalité. Et il nous a dit, soyez hospitaliers, parce que vous ne savez jamais, c'est peut-être un ange que vous êtes en train de recevoir. Le repas, il est important, ce repas-là. Le repas revêt une importance. Okay? Souvent, lorsqu'il y avait une alliance qui était faite, on partageait un repas pour sceller tout ça. Par exemple, puis c'est ce qu'on va voir dans les prochains versets, on va voir que Dieu rappelle des promesses qu'il a fait à Abraham. Et puis, c'est dans le repas que ça se fait, cette affaire-là. Quand Isaac, par exemple, avait fait à croire que sa femme était sa sœur, comme son père, il a fait la même affaire que son père, Abimélec, bien, Dieu l'a arrêté avant le temps. Puis Abimélec, il a dit, « Pourquoi tu m'as fait ça? » Puis là, Abimélec a dit, « OK, vous êtes un peuple qui est béni, promettez-moi que vous n'allez jamais venir en guerre contre notre peuple. T'sais. Il dit, je te redonne ta femme, tout ça. Fait que Isaac, c'est écrit qu'Isaac va faire une promesse et puis il va lui offrir, ils vont faire un repas puis ils vont sceller cette alliance-là dans Genèse 26, 28 à 31. Sur le mont Sinaï, Dieu avait dit que sur la montagne de feu, seulement Abraham, Moïse pouvait monter et que tous les autres animaux ou humains s'approcheraient de la montagne qui serait en feu mourraient. Il y a eu un repas qui s'est fait avec les 70 anciens d'Israël. Il y avait Moïse, Aaron, et puis Dieu leur est apparu. C'est écrit, ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent, puis ils ne sont pas morts. Okay? Donc, ils ont vu Dieu, ils ont mangé et ils ont bu. Et c'est quoi qui se passe au mont Sinaï? C'est une alliance entre Dieu et les hommes. Encore dans le Nouveau Testament, et ça c'est intéressant, parce que même dans le Nouveau Testament, Dieu, lorsqu'il veut rentrer dans la vie d'une personne, il partage un repas avec cette personne-là. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et parce qu'on a ces passages-là avec Abraham, avec Isaac, avec cette histoire que quand il y a une alliance qui se règle, il y a aussi un repas qui est fait. Eh bien, ici, c'est incroyable. Jésus est en train de dire, c'est-tu quoi? Je frappe au cœur de la porte des hommes. S'ils écoutent sa voix puis qu'ils rouvrent la porte, Dieu va partager un repas avec eux en la personne de Jésus et Jésus va partager un repas avec eux. Il y a cette idée de sceller une alliance. Et c'est l'alliance de Jésus-Christ qui meurt pour eux. Et, mais plus que ça, dans ma série, je veux mettre l'emphase sur le fait que Dieu nous a créés pour avoir une relation personnelle avec lui. Et donc, ça ici, c'est un très beau passage qui nous montre que ce que Jésus-Christ cherche à avoir avec vous, c'est des échanges. Oui, il veut sceller une alliance. Il faut que je reste dans... Il paraît que j'ai une caméra qui marche. Oui, il veut sceller une alliance, mais il veut partager un repas. Et qui dit partager un repas, dit discuter. Il dit être assis avec Jésus-Christ dans un lieu céleste, dans Éphésiens 2:6, dit c'est pas juste, tu n'es pas juste dans une salle d'attente. Tu es en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Et ça, c'est précieux. On continue après le repas ou pendant le repas. Là, on est rendu pendant le repas, verset 9 jusqu'au verset 15. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Et il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, derrière Abraham ou celui qui parlait. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Elle rit en elle-même. Elle est à 90, lui il a 100 ans. Elle rit en dedans d'elle et elle se dit, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » car elle eut peur. Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Donc, le messager, ou Adonai, connaît le nouveau nom de Sarah. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel. L'Éternel, au chapitre 17, avait renommé Sarai pour Sarah. Sarai veut dire « ma princesse ». Hein? Sarah veut dire « princesse d'une multitude ou d'un peuple ». Donc, Dieu a dit, tu vas, dans la même période de temps, il lui avait rencontré Abraham, puis il lui avait dit, change le nom de ta femme, de Saraï, qui est ma princesse, à Sarah, qui est princesse d'un grand nombre de peuples. Et donc, la question, ce n'est pas que, Dieu ne sait pas où ce qu'elle est. Tu sais, si c'est Dieu, il sait tout. Et où ta femme? C'est pas comme, Dieu n'est pas en train de pas savoir. Dieu, on l'a dit, Dieu sait tout ce qu'il y a à connaître. Mais là, il veut faire dévier la discussion sur Sarah plus que sur Abraham. Au chapitre 17, c'était d'Abraham qu'il était question. On parlait de Sarah, mais c'était pour Abraham. Mais là, on parle de Sarah pour parler à Sarah aussi. On va le voir de toute façon. Au verset 10, c'est écrit, « L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette époque, à cette même époque, donc l'année prochaine, et voici, ta femme aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc, l'année prochaine, il va y avoir la validation de la promesse. Une prophétie, entre autres, c'est Dieu qui prévoit faire quelque chose ou intervenir dans l'histoire des hommes. Il annonce que c'est comme ça que ça va se passer. Puis quand ça se réalise, on dit « Ah, c'était Dieu qui avait parlé. » Entre autres, c'est une des choses que Dieu fait. Il annonce des choses qui ne sont pas encore pour qu'on puisse croire qu'il est Dieu. Et ça ne fait pas quelques jours, peut-être quelques mois ou semaines, mais c'est dans la même année, au chapitre 17, le verset 21, Dieu avait annoncé qu'elle serait, son nom changerait, mais qu'elle aurait un fils et que son nom serait changé, puis qu'elle deviendrait la mère d'une multitude. Fait que dans le chapitre d'avant, Dieu avec Abraham. Dans le chapitre 18, Dieu avec Abraham, puis Sarah qui écoute en arrière. Et il avait ri. Abraham avait ri. Voyons donc. Mais là, Abraham est sérieux. Il écoute le messager. C'est la deuxième fois que ça l'arrive. Et donc, c'est peu de temps après, parce qu'on lui a dit aussi, dans le chapitre 17, que dans un an, elle aurait cet enfant-là. Pourtant, pourquoi est-ce que Dieu, il insiste là? Pourquoi il vient au chapitre 17 et il est obligé de revenir au chapitre 18? C'est parce que Dieu cherche quelque chose dans la relation. C'est qu'il cherche à ce que Abraham, Sarah, et le croyant croit aux promesses de Dieu. On peut s'en moquer, en rire. Ou on peut y croire, peut dire qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire, dans le fond, dans cette situation-là. Et Dieu lui avait annoncé que dans un an, la promesse s'accomplirait. Et la promesse se répète. Et ça parle avec évidence que celui qui est en train de lui parler, parce que dans le chapitre 7, Dieu avait dit à Abraham, « Dans un an, je vais revenir. » Puis là, c'est écrit, « Dans un an, je vais revenir. » Fait qu'un des trois personnages est nécessairement l'Éternel, puisqu'il avait dit, « Quand ça fera un an, je reviendrai vers toi. » Et là, il lui dit, « Dans un an, je reviendrai vers toi. » Donc, un des trois personnages, ça parle avec évidence qu'il est Dieu, Adonai. Et donc, Dieu aurait pu prendre le bébé, le mettre dans le ventre de Sarah, quand elle était en bas de 75 ans. On commence à en entendre parler en Genèse 12, ils ont 75 ans, mais on sait qu'Abraham avait quitté Ur en Chaldée avant ça. Il s'est installé à Charan à l'âge de 75 ans. Et à l'âge de 75 ans, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait là? Et d'ailleurs, Dieu qui sait mieux que tous, Dieu savait, et c'est écrit quand la première fois qu'on entend parler de Sarah, c'est écrit qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il choisit Abraham avec une femme qui est stérile. Dieu, sais-tu mieux que ça? Oui, Dieu sait mieux que ça. Il sait aussi qu'il est tout-puissant. Il n'est pas juste omniscient, il est omnipotent. C'est-à-dire, on a vu que la définition de la souveraineté, ça ne voulait pas dire que Dieu contrôlait tous les détails de l'univers, mais que Dieu était au-dessus de tout, et Dieu était le créateur de tout, et Dieu était avant toute chose, et Dieu est capable de tout faire dans sa création. À moins qu'on ait parlé qu'il y a des choses qu'il n'était pas capable de faire, comme par exemple, créer une pierre plus lourde que ce qu'il était capable de porter. Mais ça, c'est un autre message. Hey, 87 ans, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Quand il a vu qu'il était en train de faire un plan pour coucher avec Agar, la servante de sa femme, parce que sa femme était rendue trop vieille pour avoir un enfant, pourquoi Dieu n'a pas juste comme mis le bébé là, dans le ventre de Sarah? Ou, pourquoi? Parce que Dieu y attend. Il attend de voir si Abraham et Sarah et le croyant croient que Dieu est capable de faire des choses qui sont plus grandes que les hommes. Vous savez quoi, nous autres, là, c'est pas compliqué, on discerne la volonté de Dieu quand ça commence à être trop dur. Alors, quand c'est trop dur, ça ne doit pas être ça que Dieu veut pour nous. Et c'est souvent la difficulté qui dirige les croyants et l'impossibilité qui leur dit, ah, ça doit être parce que Dieu ferme une porte. Puis Dieu est là au ciel, puis il dit, ils vont-tu croire que je peux calmer les tempêtes ou ils vont rester des gens de faible foi? Est-ce que c'est des gens qui vont croire que je suis vraiment Dieu dans leur vie, puis je réponds à leurs prières quand les situations sont impossibles, ou ils vont dire, ben non, ça doit être la volonté de Dieu que je n'aille pas par là, puisque c'est difficile. Puis à chaque fois qu'on trouve la facilité, on dit, ah, enfin, ça c'est la volonté de Dieu. Et donc, il est en train de produire un Abraham et une Sarah qui savent que Dieu sait tout et que Dieu peut tout. Et c'est en ce Dieu-là. Est-ce qu'ils vont faire confiance à un Dieu omnipotent? Eh bien, Abraham avait ri. Voyons donc, j'ai 100 ans, ma femme en a 90. Là, c'est quoi la joke? Chapitre 18, Abraham, il ne rit pas. Mais Sarah, elle entend en arrière, et c'est écrit, Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant parce qu'elle avait sa ménopause. Aux yeux naturels, aux yeux humains, c'est impossible qu'elle puisse enfanter. Et donc, il y a un ridicule. C'est ridicule le plan de Dieu aux yeux humains quand Dieu nous amène à un endroit où si Dieu n'intervient pas, je veux dire, ça ne marchera pas. Ça devient presque ridicule. On va se faire rire de nous-mêmes. On va passer pour des gens qui s'acharnent sur quelqu'un qui est déjà mort pour essayer de le ranimer. Mais ici, Sarah... Elle trouve ça ridicule et c'est écrit « Harry, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? » Et ici, c'est le même mot pour ce luxe. Est-ce que je pourrais avoir ce luxe-là? Je suis vieille, je ne peux pas avoir d'enfant. Est-ce que je peux avoir le luxe de choisir entre avoir un enfant et pas avoir un enfant? Est-ce que ce n'est pas nécessairement le désir là, de la relation? Bien que ça serait drôle quand même de dire quand même, je suis vieille, ça fait longtemps qu'on a pensé à d'autres choses. T'sais. Puis en plus, lui, il est vieux. Il va-tu être capable de faire quelque chose avec ça, tu sais. Fait que c'est peut-être qu'elle a ri, puis elle a dit, « Ça fait longtemps qu'on tricote des bas pour nos... des bas en laine. Hein? On a passé à d'autres choses. » En tout cas, elle trouve ça drôle. Le plan de Dieu a de l'air vraiment comme loufoque. Et donc, elle va dire « mon Seigneur » ici, puis elle va l'appeler Adoni, « mon Seigneur ». Tandis que, qu'est-ce qu'on avait vu? Abraham, il avait dit « mon quoi? » « Mon Adonai hein? ». Donc, on voit ici encore, dans le même contexte, dans le même texte, que quand on parle à un maître humain, on l'appelle Adoni, mais le Seigneur, lui, c'est Adonai. C'est vraiment, vraiment intéressant ici, sur la Trinité d'ailleurs. Et donc, l'Éternel, là, c'est l'Éternel. Là, il y a trois hommes. Là, le texte dit, et l'Éternel dit, c'est pourquoi que Sarah rit? Il sait pourquoi elle rit, il connaît tout. Mais Dieu pose des questions et il attend une réponse parce que Dieu, il est embarqué dans le temps avec nous autres, puis il veut interagir avec nous autres. Il est en train de dire, je ne connaîtrai pas Sarah en dehors d'une relation. Et c'est pour ça que Dieu peut choisir de ne pas connaître des gens. Dans Matthieu 7, il va retirer des gens de son royaume qui vont vouloir rentrer, puis il va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Comment Dieu, qui est tout-puissant, qui connaît tout, qui connaît si une roche avec cinq picots blancs, une roche noire avec cinq picots blancs, lui, il sait. Il connaît tout dans le monde, mais comment il peut dire, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? C'est que Dieu peut choisir de ne pas connaître dans l'expérience. Il peut choisir de s'abstenir de connaître ou de connaître seulement par l'expérience. Dans cette situation-là, il sait déjà ce qu'elle a dit dans sa tête. Quand elle a dit « je suis vieille, je ne pourrais pas enfanter ». Mais il veut avoir une relation et il pose la question parce qu'il veut avoir une relation avec elle. Et elle va dire « ben, je n'ai pas ri, tu sais. Oui, oui, tu as ri. » Puis là, le texte continue. C'est vraiment intéressant. Il veut une relation. Ma série est beaucoup basée sur justement Dieu qui cherche à avoir cette relation de confiance. Est-ce que Sarah me fait confiance? Est-ce que Sarah me fait confiance, tu sais, dit le Seigneur? Tu sais. Et donc, regardez ce que le Seigneur va dire. Il va dire, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Et le mot « étonnant » est aussi traduit par le mot « merveilleux, extraordinaire, élevé ». Et ces mots sont toujours utilisés pour le Seigneur et jamais à un homme. Ce sont des choses qui sont élevées. Des choses qui sont merveilleuses, des choses qui sont hors de portée des hommes. Et quand Manoac, le père de Samson, le messager, il leur est apparu, jusqu'au début, il pensait, du début jusqu'à la fin, il pensait que c'était un messager qui était venu leur annoncer qu'ils auraient un fils qui commencerait à les délivrer des Philistins. Mais après, il a monté dans une flamme de feu, puis il a monté dans les cieux. Et là, ils ont dit, ouf! Nous étions en présence de l'ange de l'Éternel et nous ne le savions pas. Et avant qu'il s'en aille, il dit, hey, « Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? » Il dit, « Mon nom est merveilleux. » C'est un des noms de Dieu, si on peut dire, qui est attribué à Dieu. Donc, y a-t-il quelque chose qui ne soit pas merveilleux de la part de l'Éternel? Bien, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, avant son incarnation, dans son apparition à Manoac, il dit, « Mon nom, c'est merveilleux. » C'est attribué seulement à Dieu. Ailleurs, dans le psaume 139, ce beau verset qui nous dit que avant qu'on était encore une masse informe, qu'on était dans le ventre de notre mère, Dieu voyait tous nos membres et tous nos membres étaient écrits dans un livre anatomique avant qu'aucun de nos jours soit. Il nous voyait tous quand on était encore une masse informe. Le passage, David, il dit dans le psaume 139, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis. » Quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Toutes mes voix te sont familières. La parole n'est même pas encore sur ma langue que tu la connais déjà. Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop extraordinaire pour moi. Puis le mot, c'est élevé. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Encore une fois, c'est quelque chose qui est attribué à Dieu et à aucun homme. C'est, y a-t-il quelque chose qui ne soit pas merveilleux de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne soit pas extraordinaire de la part de l'Éternel? On voit ça dans Ésaïe 9:6 et dans Ésaïe 28:29 aussi. Dans Ésaïe 28:29, il dit, « Il distribue de merveilleux conseils. » Et il augmente la capacité de discernement. Et c'est des attributions, ce mot-là n'est associé qu'aux œuvres de Dieu. Et en quelque sorte, quand Abraham, Dieu, il dit à Abraham, puis que Sarah est là, puis elle rit à l'intérieur d'elle-même, il lui pose la question, y a-t-il rien qui soit étonnant ou merveilleux, extraordinaire, étonnant, élevé que je ne puisse pas faire? Et c'est la même question qu'il nous a posée aussi, quand on s'approche de Dieu, est-ce qu'on croit que Dieu peut faire des choses qui sont, à yeux humains, c'est ridicule à yeux humains, mais est-ce qu'on croit que Dieu, lui, peut le faire? Puis est-ce qu'on s'approche avec la foi que Dieu et va récompenser notre prière, puis qu'il va faire des choses que même nous, on pense qui sont impossibles? C'est un peu ça qui pose la question. En fait, oui, il aurait pu mettre le bébé directement dans Sarah, mais ce qu'il cherche chez Sarah, c'est sa foi. Il se demande, Sarah, c'est-tu le type de femme en qui je peux faire quelque chose? Abraham, c'est-tu le type de gars en qui je peux vraiment venir puis bénir? Comme j'ai dit, dans les trois derniers jours de la tribulation, quand ça va aller mal sur la terre, puis il va y avoir un grand jugement sur la terre, c'est seulement dans les trois derniers jours qu'il va y avoir un esprit de supplication chez le peuple juif et que le peuple juif doit demander à ce que le roi des Juifs règne sur eux. Jésus nous demande à Matthieu 6 qu'on l'invite à régner, qu'on revienne, Seigneur, reviens, Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre. Pourquoi il nous demande de lui demander? C'est parce qu'il nous a délégué la terre. Et il veut qu'on veuille que ce soit lui qui soit notre maître. Et puisqu'il nous l'a délégué, il va nous laisser tranquille. À moins qu'on lui dise, hey, sais-tu quoi? Moi, je veux que tu règnes. Je veux que tu règnes sur ma vie, je veux que tu règnes sur ma famille. En tant que pasteur d'église, je veux que tu sois le chef de cette église-là. En tant qu'employeur, je veux que tu t'occupes de mes enfants. En tant que père de famille, viens t'occuper de mes enfants. Bénis mes enfants, comme Job qui priait pour ses enfants. Il invitait la bénédiction de Dieu sur sa famille. Et donc, elle va avoir un bébé. Et Abraham va avoir une responsabilité d'éduquer cet enfant-là à marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est important que ces gens-là soient des gens de foi. Abraham te rit au chapitre 17. On va attendre. Il revient au chapitre 18. Abraham ne rit pas, Sarah rit. Et tranquillement, il va amener cette promesse-là à exécution parce qu'il a vu la foi dans le cœur d'Abraham. Verset 16, jusqu'au verset 21. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Et Abraham deviendra certainement une grande nation, une grande et puissante nation. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri de Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Très intéressant ici. Dieu, il passait par chez Abraham pour s'en aller à Sodome, exécuter un jugement. Abraham, il est convaincu qu'il ne fait pas juste passer. Il saisit l'occasion et l'accompagne avec lui. Il part avec eux et il les accompagne. Ça aussi, c'est une tradition. C'est, tu fais un bout de chemin avec les gens qui sont venus manger chez toi. Tu ne fais pas juste dire « à la prochaine cerveza ». Non, c'est comme il marche avec, puis il marche un bout. Puis là, Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Et il va lui révéler, et la réponse, c'est non, parce qu'il lui dit ce qui va arriver, il y a un jugement qui s'en vient. Donc, il lui dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Écoutez bien, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Il y a cette promesse, encore une fois, qui va devenir une grande nation. Il y a le repas qui vient sceller cette promesse, encore une fois réitérée, qui va être une grande nation et que les nations vont être bénies. Mais là, il dit, dans la mesure où ta descendance va marcher, ils vont obéir. Il va mettre deux choses. Il va mettre Mais je vais en parler plus tard. Mais le terme ici qui est intéressant, c'est « je l'ai choisi ». Et dans le verset 19, il dit « je l'ai choisi ». Pourquoi est-ce que je ne te cacherai pas qu'est-ce que je vais faire? Parce que je t'ai choisi. Et le mot « choisi », c'est aussi, ça pourrait être mieux traduit par « je l'ai connu ». Dieu qui connaît toutes choses, il dit qu'il a connu Abraham. En fait, le mot, c'est « connaître par l'expérience ». Dieu a fait l'expérience d'une relation avec un humain, si on peut dire. Et il l'a connu par l'expérience avec lui. Ainsi, dans Jacques, au chapitre 2, verset 23, il dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Ami de Dieu. Ça, c'est ce qui était offert à Abraham. Puis parce qu'il est son ami, Dieu dit « Hey, t'es mon chum, je ne vais pas te cacher qu'est-ce que je vais faire dans le futur. » Et donc, il ne lui cache pas, il dit « Garde, je vais te montrer qu'est-ce qui est en train de se passer à Sodome. » Et tu vas aussi devenir une grande nation. Il lui dit aussi comment il va le bénir dans son futur. Jésus a dit un peu la même affaire. Il a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus disciples, je ne vous appelle pas serviteurs, je vous appelle amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Et il dit à ses disciples, il dit, « Je vous ai appelé amis, parce que je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon Père. » Dans Jean 15, au verset 15. Et donc, il y a cette idée qu'il y en a qui sont connus de Dieu et il y en a qui ne sont pas connus de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont entré en relation d'alliance avec ce Dieu-là et il y en a qui n'ont pas été rentrés en relation d'alliance avec lui. Et en ce sens, ils n'ont pas cette communion, ils n'ont pas cette relation-là. Et je veux qu'on voit qu'on est privilégié d'avoir accès à Dieu le Père par le Saint-Esprit au moyen de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ. Je veux qu'on voit que ce n'est pas tout le monde qui est ami de Dieu et que Dieu lui partage un petit peu ce qui va arriver, les jugements à venir, le salut pour ceux qui croient en lui, etc. Ces choses-là sont réservées aux croyants. On est privilégié. Et Abraham est privilégié, mais en même temps, ça va brasser à Sodome. Il lui montre qu'est-ce qu'il va faire. Nous aussi, on sait qu'il y a un jugement qui est à venir. Contrairement à Abraham, on est un petit peu plus solide sur le fait que le chrétien, celui qui a été déclaré juste par Dieu, à cause de la croix, vont échapper au jugement à venir. Nous, on le sait. Abraham, c'est nouveau tout ça pour lui, qui vient d'être déclaré juste. Je pense au chapitre 15. Dieu lui a imputé sa justice, c'est-à-dire qu'il l'a déclaré juste parce qu'il a cru qu'il aurait un enfant dans son vieil âge. Okay? Fait que c'est nouveau pour lui tout ça d'être déclaré juste. Et il lui dit qu'il faut qu'il garde sa descendance dans la voie de l'Éternel, et dans la pratique de la droiture. Garder la voie de l'Éternel, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la personne, tandis que marcher dans la droiture, c'est ce qui touche au comportement d'une personne. Et Dieu lui dit, ça va être important que tu enseignes tes enfants à garder la parole de Dieu et à marcher selon la parole de Dieu. Et il dit tout de suite, après y avoir dit, afin qu'ils marchent dans la droiture puis qu'ils gardent la voie de l'Éternel, il dit, je m'en vais dans une ville où il y a de la méchanceté et du péché. Méchanceté qui est les actions extérieures, le péché qui est quelque chose qui peut être intérieur aussi. Et donc, il y a un contraste là, dans le passage. Tu vas être une nation, tu vas enseigner tes enfants à marcher dans la droiture et ils vont garder la loi de l'Éternel. Mais il dit, viens, on va aller. Il y a des gens que c'est terminé. C'est l'heure du jugement pour cette personne-là. C'est la fin de l'horloge, on peut dire, pour Sodome, Gomorre et les villes de leur ressort. Puis il y en aurait eu 4, si je ne m'abuse. Il y en a 4 qui ont été détruits autour, sauf une dans laquelle Lot a intercédé pour pouvoir aller se placer. Donc, à Sodome, Dieu dit, c'est terminé pour Sodome à cause de leur péché et de leur injustice. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. C'est vraiment un beau passage. Bien, c'est pas un beau passage, mais c'est comme, tu dis, comment Dieu dit, je vais descendre, je vais le savoir. Tu sais. Laissez-moi continuer avec ça un petit peu plus tard. Mais avant, saviez-vous que Sodome, même les historiens non chrétiens, connaissent cette ville-là par ses vices? Par exemple, l'historien John Gray disait que les étrangers de Sodome étaient capturés, kidnappés, capturés, enchaînés dans des cages et privés de nourriture jusqu'à la mort pour amuser le peuple de Sodome. C'est pas l'esclavage, là. Ils mettaient des gens à mort pour leur propre plaisir. D'ailleurs, lorsqu'on voit les anges arriver, la première chose que les gens font au chapitre 19, c'est de se rassembler autour de la maison de Lot pour pouvoir violer les deux gars. C'est de l'amusement en public. C'est un viol de masse et devant d'autres personnes, dont les enfants probablement. Quand Dieu dit « Le cri contre Sodome est monté jusqu'à moi », Dieu dit « C'est terminé ». Dieu, c'est sûr qu'il connaît tout. Dieu sait ce qu'il y a le cœur dans le cœur de Sarah. Elle dit « Hey, je suis vieille, je ne peux pas avoir d'enfant », puis Dieu il répète ce qu'elle a dit dans son cœur. Dieu connaît le péché des sodomites. Il est omniscient. Mais pourquoi a-t-il besoin de descendre pour savoir, lui qui connaît tout? Pourtant, dans le passage, dans le même contexte, c'est écrit « J'ai connu Abraham ». Ah! Il savait qui il était, mais il ne connaissait pas. Et là, il dit « Il vient le voir avec des yeux d'homme ». Il vient en tant que trois personnages, il y en a un que c'est Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que les choses vont se juger avec deux ou trois témoins, n'est-ce pas? Pourtant, la loi de Moïse n'est pas encore apparue où ce qu'on va juger. Déjà, Abraham, il pense que Dieu, c'est un Dieu injuste. Abraham, il dit, voyons donc, tu ne vas pas juger une ville au cas où il y a des justes dans cette ville-là. Tu ne vas pas venir les juger. Déjà, Abraham, il juge Dieu sur le fait que Dieu ferait un jugement qui ne serait pas juste. Or, Dieu, il pourrait arriver du ciel, pssst, comme il ferait dans le lieu très saint, quand le sacrificateur n'avait pas fait bien ses sacrifices, faire un tas de cendres avec lui, d'une shot, comme ça. Pssst, pourrait faire ça. Par contre, pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas ici? C'est parce qu'il ne faut pas juste que l'action soit juste, il faut qu'elle paraisse juste. Il n'y a personne des sodomites qui sont présentement dans le séjour des morts qui peuvent dire que Dieu les a jugés trop rapidement. Même ils ont voulu violer les anges qu'ils amenaient avec lui. Donc, il leur a donné l'occasion de montrer leur folie et c'est sur cette base-là qu'il les a jugés. Alors, c'est sûrement par choix, puisque Dieu sait tout, Dieu connaît tout, c'est sûrement par choix qu'il a décidé d'être un témoin visuel de cette chose-là. Hein? Et peut-être par le jugement des deux anges aussi, parce que c'est les anges qui ont effectué le jugement, donc ils ont vu eux-mêmes. Mais ils n'ont pas juste vu. Les autres ont vu qu'il les a vus. Donc Dieu sera sans reproche dans son jugement puisqu'il a été, il va les juger en présence de témoins dont lui-même l'Éternel qui est devenu un homme. Donc comment est-ce qu'il a choisi de connaître qu'il se passait des choses mauvaises à Sodome? Il a choisi de le connaître, écoutez bien, par les cris qui sont parvenus jusqu'à lui. Ce n'est pas qu'il ne peut pas connaître, c'est qu'il a choisi de le connaître. Sûrement par choix, il a choisi de connaître par les cris la femme de ce gars-là qui s'est faite kidnapper. C'est cet enfant-là qui a été violé. Cette méchanceté-là, là, Dieu il a décidé quand il est rentré, il a créé le monde, il a décidé de rentrer en relation avec le monde et pas juste agir sur le fait qu'il est Dieu puis il peut tout, il sait tout, mais sur le fait qu'il a décidé aussi, puis il a délégué au roi de Sodome et de Gomorre et des cinq autres villes autour de gérer le mal qui se passait dans leur ville. Depuis Genèse chapitre 6 jusqu'à chapitre 9, on voit l'établissement du royaume, des royaumes humains. Où ce que là, il y a la peine de mort qui s'ajoute, une vie pour une vie, le gouvernement humain s'ajoute. Et donc, Dieu dit, regarde, écoutez, là, j'ai donné une ville à gérer, gérez-la. C'est comme s'il disait, vous, en plus, dans le Jardin d'Éden, vous m'avez dit, garde Dieu, on ne veut pas de toi. Tu sais. Je pense qu'on est capable, nous autres, de gérer nous-mêmes. Fait que là, Dieu dit, il dit à l'homme, ah ouais, on vous laisse gérer, je vais vous laisser gérer. Mais ce que j'aimerais attirer de notre attention, c'est que Dieu, il entend les cris qui lui sont adressés. Donc, le roi de Gomorre et de Sodome et toutes les villes de leur ressort avaient la responsabilité, mais il était probablement parmi ceux qui cognaient à la porte pour avoir Lot pour le violer. Alors, puisque c'est des autorités qui sont déléguées et des plaintes qui sont faites à l'autorité supérieure, puis l'autorité supérieure dit, « OK, bien, vous voulez que je m'emmène, vous m'invitez dans votre royaume. » Je vais venir et je vais finir faire quelque chose. Spécial quand même. Trouvez pas? Il leur donne du temps, un peu comme Nebuchadnezzar qui dit « Je te donne du temps, tu es le roi, tu as donné un an pour mettre un terme à tes péchés. » Après ça, Dieu est venu et il est intervenu. Dieu donne du temps aux hommes aussi et ne s'en mêle pas. Si toi, mettons, là, tu as un royaume, puis tu ne veux pas inviter Dieu dans ce royaume-là, Dieu te laisse gérer ton royaume. Il fait confiance que tu veux le faire du meilleur que tu peux, mais Dieu veut pouvoir venir régner avec toi dans ce petit royaume-là. Et donc, la somme des plaintes de prières qui sont venues pour qu'il y ait une justice est parvenue jusqu'au Seigneur. On voit ça dans le Nouveau Testament aussi, dans Jacques 5, pour ceux qui ne payent pas leurs employés ou qui payent mal leurs employés, c'est écrit « Leur salaire crie jusqu'à moi et les prières des ouvriers est parvenue jusqu'à moi. Les employés frustrés sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Encore dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 18, il nous parle de cette veuve qui n'a plus rien, elle n'a plus un sou, et puis il n'y a pas de justice qui est faite. Puis elle va voir un juge qu'on appelle le juge unique, puis elle va aller toujours le suivre partout, ce qu'il va aller, puis elle va l'achaler jusqu'à temps qu'il réponde à sa requête puis qu'il lui fasse justice. Et Jésus va dire, « Entendez ce que dit le juge unique. » Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit à lui? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et le mot, c'est vengeance. Et Jésus est en train de nous dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, s'il y a quelque chose qui est méchant dans le monde, appelle au Big Boss. T'es ami avec le Big Boss. Puis il va faire justice et il va le faire promptement. Sous l'autel, il y a des gens qui arrivent de la grande tribulation, ils ont tous été martyrisés. C'est un bain de sang à une période dans la grande tribulation et c'est écrit que la voix des hommes et des femmes sous l'autel dit « Ô Dieu, jusqu'à quand tarderas-tu à juger et à venger le sang de nos frères? » Il demande quoi? Il dit « Gars, l'Antichrist est en train d'installer son royaume, mais il y a des gens qui parlent au Big Boss. » Et Dieu va écouter ces prières-là. Puis il va venir et il va agir dans la grande tribulation. C'est intéressant quand même, non? Dieu a donné la gestion du monde aux hommes. Dieu a donné la gestion de ma vie à moi. C'est à moi de l'inviter à régner avec moi. Le verset 22 à 33, on ne les lira pas. On va arriver vers notre conclusion qui est quand même très intéressante ici. C'est tout un passage. La ville est menacée, puis Abraham, tout d'un coup, il en fait une histoire personnelle. Pourquoi? Parce qu'il est venu un temps, à un moment donné, où il y avait de la chicane entre les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot, et ils ont décidé de se séparer. Puis Lot a choisi une place où il y avait de la prospérité. C'était un lieu qui était autour, pas loin de la mer Morte. C'était un lieu qui était bien arrosé, très abondant. Et c'est sa convoitise d'avoir plus qui l'a amené là. Or, c'est là qu'il est sorti avec sa femme puis deux filles, alors qu'il y avait deux fils et deux filles mariées en plus. Ils étaient 10 au total dans la famille de Lot. Il a juste sorti avec sa femme ses deux filles qui étaient encore à la maison, chez lui, sous son toit. Mais Lot, il a tout perdu, lui. Lot, il a tout perdu dans cette histoire-là. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est qu'Abraham se sent concerné parce qu'il aime son neveu Lot. Puis là, il sait que la ville va être détruite. Fait que il commence à intercéder pour lui. Et là, il y a une séparation. Les deux anges vont pour détruire la ville, tandis qu'Abraham reste avec l'Éternel. Et là, il y a une belle intercession qui va commencer où ce que on va voir Dieu. Oui, Dieu aurait pu faire « psss », mais il voulait voir dans Abraham un cœur pour les perdus. Il voulait en voir un cœur, en tout cas pour son neveu, certainement. Si Lot serait mort dans le feu avec sa famille, si Lot était injuste, il aurait juste subi les conséquences d'avoir été se mêler à ce peuple-là. Mais il n'aurait pas perdu son salut. Il serait mort physiquement, puis il aurait perdu la chance de connaître Dieu encore. T'sais. Mais là, à cause de l'intercession de son mononcle, Dieu va se laisser fléchir. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va lui dire, s'il y en a 50 juste dans la ville, toi qui es le juste juge de l'univers, feras-tu périr le juste avec l'injuste? Et là, il y a une intercession qui est basée sur le caractère de Dieu. Abraham dit, hey, t'es le juge de l'univers, là. Tu ne vas pas comme détruire une ville sans regarder qu'il y aurait peut-être quelqu'un là-dedans qui est un croyant. Fait que, et Dieu, il se laisse challenger. Puis là, il dit, OK, s'il y en a 50, je ne détruirai pas la ville. Est-ce que je peux vous demander s'il y en avait 45, est-ce que tu détruirais la ville? Puis il descend comme ça jusqu'à 30, après ça à 20, puis il arrête à 10. Il arrête à 10 parce que la famille de Lot est rendue à 10. Mais le problème, c'est que dans la famille de Lot, il y a peut-être juste Lot qui est un juste. Les autres n'ont pas nécessairement placé, on ne le sait pas. Ben, c'est vraiment intéressant de voir ça. Finalement, il arrête à 10, puis on voit que la ville est détruite. Puis c'est pas que l'intercession d'Abraham n'a pas fonctionné. Tu sais, on lit ça des fois, on se dit, mais pourquoi qu'il l'a fait pareil? Ben, Dieu n'a pas trouvé 10 personnes qui étaient devenues un juste. En passant, si vous voulez comprendre le juste dans le Nouveau Testament, vous avez Romains 3, 26 qui dit que Dieu déclare juste celui qui a la foi en Jésus. Dans Apocalypse 3, 10, c'est écrit que, à l'Église qu'il va les sortir avant la période de jugement. Apocalypse 3, 10 dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est pour ça que les chrétiens ne passeront pas dans la période de tribulation. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 9, il nous dit aussi que les croyants ne sont pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 9. Puis le chrétien, dans 1 Corinthiens 11, 32, est châtié par le Seigneur pour ne pas être jugé avec le reste du monde. Donc, il y a un jugement qui s'en vient. Dieu, on est amis de Dieu, on a compris ces choses-là. Parce qu'on est amis de Dieu, on a compris l'Évangile, on a compris c'est quoi injuste. Et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, le jugement qu'il méritait est tombé sur lui. Et donc, il n'y a pas de jugement à venir pour le croyant, sinon la remise des récompenses ou la perte des récompenses. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 3, 15, c'est écrit que si tu as vécu ta vie sans Dieu, sans inviter Jésus à venir régner avec toi sur ta vie, bien, ta récompense va passer comme au travers du feu. Et il va rester toi, parce que c'est l'œuvre de Christ qui t'a sauvé, mais pas de récompense nécessairement associée à ta marche. Et la meilleure image aujourd'hui, c'est Lot qui sort. Il a perdu beaucoup. Il a perdu sa femme. Qui a regardé probablement ses fils qui n'avaient pas suivi. Et ça voulait dire, Dieu, je ne suis pas d'accord avec tes jugements. J'ai pas la... Donc, il y a un manque de foi quelque part là-dedans. En tout cas, peu importe. Puis en passant, Josephus dit que la statue de sa femme était encore visible au temps de Josephus. C'est écrit dans les écrits de Josephus comme quoi que cette statue-là est encore là. Et j'ai regardé encore hier, puis encore ce matin, les boules de soufre qui sont dans les quatre villes, on retrouve des boules de soufre encapsulées dans du calcaire qui était la forme des villes. Les villes étaient faites avec ça. Et puis le soufre mélangé avec le calcaire produit un autre produit qui on retrouve à grandeur dans la cendre. Mais c'est intéressant, tu les vois, les archéologues, ils cassent la pierre, c'est toute de la cendre, comme, puis à un moment donné, il y a des boules de soufre. Et lorsqu'ils l'analysent, la plus pure qu'on a vient des volcans à 40 %. Savez-vous combien il y a de pourcentage de soufre dans ces boules-là? 98 %. Tu ne retrouves pas ça nulle part ailleurs, cette qualité de soufre-là. Et on voit des arches de portes. Tout le tour de la mer morte, là, justement, aux endroits où avaient été ces villes-là et les villes de leur ressort, on voit des formes carrées, on voit des sphinx, des tours rondes pour mettre sur le coin, puis on voit des structures humaines, des traces de rues, des structures humaines qui sont à 90 degrés, puis on voit ces boules de soufre-là. C'est fascinant. Et puis, Josephus en parle, justement, comme quoi qu'on le voit encore, c'est les villes qui ont été détruites par le feu. Donc, Josephus en parle comme ça. Donc, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, en 96, là, les archéologues, ou même des années 75, qui ont été explorés, ont trouvé ces traces d'un grand jugement qui est arrivé. Je vais terminer ma conclusion avec ceci. Oups, c'est la révision 2. Dans la révision 2, il y avait la question suivante. Dieu te pose la question, veux-tu que je m'en mêle? Et je trouve que c'est ça qui va bien avec ça ici. Dieu dit, écoute, tu as ton royaume, tu as ta famille, tu as ta pureté sexuelle, tu as tes pensées, c'est toi qui conduis. Tu veux-tu que je m'emmène? Au roi de Sodome, pose la même question. À Lot, il pose la même question. Hey, tu veux-tu bâtir un futur qui va partir en fumée puis perdre beaucoup ou tu veux être béni? Tu sais? Ah, lui, il est tout de suite à regarder vers la richesse. Il est allé vers la richesse. Tu sais. Puis nous autres aussi, Dieu va nous laisser choisir qu'est-ce qu'on veut. Puis il va nous poser la question. Tu veux-tu que je m'emmène? Puisque j'ai donné la terre aux hommes, Dieu nous dit, c'est ton royaume. Ce que j'aime aussi me rappeler dans le message qu'on a entendu aujourd'hui, le cri des gens est parvenu jusqu'à moi. Dieu entend vos cris. Dieu entend vos prières. Osez lui demander. Faites un cahier, écrivez-les vos requêtes pour pouvoir le remercier quand il va répondre. Parce qu'il va répondre. Si on ne les écrit pas, c'est probablement parce qu'on pense qu'il ne répondra pas. Quand on vous demande pour prier pour quelqu'un, notez-le, pourquoi? Vous pourrez dire, ah puis finalement, la situation. Moi, je prie pour ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit que Dieu ne va pas tarder envers ceux qui le prient jour et nuit. Autrement dit, incessamment, avec persévérance. Il ne tarde pas à leur faire justice. Alors, Dieu nous pose la question. Est-ce que tu veux que je m'en mêle en tant que patron, en tant que pasteur, en tant que responsable de ministère, en tant que père et mère, en tant que vie individuelle? La prière invite Dieu à régner dans nos vies. Est-ce que tu lui fais confiance? Oui. Jusqu'à présent, tu n'as peut-être pas reçu parce que tu n'as peut-être pas demandé. Commence à demander. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et je vais finir avec dans ma prière avec la présentation de l'Évangile. Merci d'être mort sur la croix. Merci d'avoir été puni pour nos fautes afin qu'on puisse être déclaré juste par l'œuvre de Jésus-Christ seulement. Non parce qu'on essaie d'être des bonnes personnes, mais parce que tu es mort sur la croix et tu es ressuscité des morts pour qu'on puisse être sauvé. Merci que tu nous appelles maintenant amis. Amis, parce qu'on sait qu'il y a un jugement qui s'en vient. On sait aussi que tu sauves les gens de ce jugement-là au travers de la croix. Non, on n'est pas juste des serviteurs, on est tes amis. Merci, Jésus, d'être mort sur la croix pour nous. Merci aussi de nous avoir donné l'accès au Père dans la prière. On est assis avec toi, Jésus, depuis qu'on a accepté que tu es mort sur la croix. On est assis avec toi. Permets qu'on puisse profiter de cette communion, de l'amitié de Dieu, pour lui te faire connaître, Seigneur, toutes nos requêtes. Je prie que cette église, papa, on a demandé cet été, est-ce que les leaders sont motivés dans cette église? On leur a demandé aussi, on a demandé au reste de l'église, avez-vous le goût de continuer en tant qu'église? La question qui est posée aujourd'hui, est-ce que vous voulez prier pour cette église? Est-ce que vous voulez la prier? Prier le Seigneur, puis la présenter, cette église-là. Son futur, ses combats, sa bénédiction. Son impact dans la communauté, son impact dans le monde. Est-ce que vous voulez demander à Dieu des choses pour cette église? Afin que Jésus puisse prendre le contrôle ou partager parce qu'il a, le Saint-Esprit a délégué aux anciens la direction, mais certainement venir dire son mot, venir s'en mêler. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, afin qu'ils soient des gens de foi, pas des gens qui vont rire dans leur cœur. Eh oui, cette église-là va grossir. Eh oui. Non, pas comme Sarah. Et comme Abraham qui finit par croire, puis sûrement Sarah aussi, que tu le multiplierais et que tu agrandirais le royaume par eux. Je te demande de bénir le reste de cette journée, Seigneur Dieu. Je te prie qu'on reste avec cette idée qu'on peut oser demander à notre papa. Amen. souhaite un bon dimanche. On est déjà...
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.